Bonjour à toutes et à tous. Comme Guy l'a déjà dit dans sa présidence, quand on a la responsabilité de donner un message et qu'il se passe les choses qui se sont passées dans notre pays, on se demande si l'important c'est de respecter le programme ou si c'est d'essayer d'apporter à l'Église une parole de circonstance et d'encouragement. Alors j'ai fait le choix, avec l'accord de Guy, de ne pas vous parler de l'Épître aux Colossiens ce matin, ce qui était prévu, mais de chercher dans l'Écriture quelques réconforts, quelques paroles qui nous encouragent. Et c'est malheureusement pas la première fois que l'actualité comporte des faits aussi graves, même si sur notre territoire ça n'a jamais été aussi grave. Mais je me suis souvenu aussi, en triant les anciens messages, d'un courrier que j'avais reçu d'un missionnaire que notre Église avait envoyé à l'époque où nous étions dans le Nord. Lui avait été envoyé en Jordanie. Et un diplomate américain avait été assassiné à Amman. Une infirmière américaine aussi avait été tuée au Liban. Et c'est l'époque où les inspections de l'ONU sur les usines de fabrication d'uranium en Irak étaient une source de tension permanente. Et on était vraiment inquiets pour la sécurité de ce missionnaire en Jordanie. Et il nous avait envoyé une lettre de nouvelles dans laquelle il exposait tous les faits que je viens de vous rappeler. Et il terminait par cette phrase en disant « Nous sommes donc simplement prudents et fermons bien nos portes chez nous. » Alors j'ai été un peu surpris, mais à la réflexion très encouragé par cette parole. Un peu surpris parce que fermer une porte, c'est une protection bien faible quand on voit de quoi sont capables certains. Mais en même temps, cette phrase, elle faisait preuve d'une sérénité, de la conscience de nos limites, mais d'une grande confiance en Dieu aussi. Et comme tout bon missionnaire, il terminait par un verset, Éphésiens 6, verset 10, « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Alors je me suis dit que face à des événements comme ceux que nous avons vécus ces derniers jours, eh bien nos émotions nous bouleversent. On peut ressentir de la peur, de l'angoisse pour nous, pour nos proches, de la stupeur. On n'est pas vraiment surpris, on sait que ces choses ont été annoncées, mais enfin quand même, quelle violence, quel déchaînement. La colère, l'indignation de voir tous ces gens innocents qui sont massacrés. Et la colère, c'est quelquefois de la haine aussi. On peut avoir ce sentiment-là. Quelle réponse trouver dans la parole de Dieu face à tout cela? Alors je vous invite à méditer l'exemple de deux personnages dans la parole. D'abord l'exemple du roi David, et nous lirons le psaume 56 que Pierre a déjà cité ce matin. Et puis l'exemple de l'apôtre Paul aussi dans toutes ses tribulations. Tous deux ont connu des situations dramatiques, des persécutions. Leurs nerfs, leurs sentiments ont été mis à rude épreuve, et pourtant, ils n'ont jamais perdu l'espoir. Psaume 56, dans la Bible du Semeur, j'ai en titre pour ce psaume « Avec Dieu, plus de peur ». Cantique composé par David lorsqu'il fut pris par les Philistins à Gath. Aie pitié de moi, ô Dieu, car on me harcèle. À longueur de jour, on m'assaille, on me combat. Oui, mes adversaires à longueur de jour me harcèlent, car ils sont nombreux ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui, et je n'ai pas peur. Que pourrait me faire de simple mortel? À longueur de jour, ils tordent ce que je dis. Ils ne pensent qu'à me nuire. Postés à l'affût, ils m'épient, et ils sont sur mes talons pour attenter à ma vie. Après ce méfait, échapperait-il? Dieu, que ta colère abatte ces gens. Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante, et mes larmes même, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. Je t'appellerai, et mes ennemis battront en retraite. Alors je saurai que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Oui, pour sa parole, je loue l'Éternel. Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire des humains? Ô Dieu, je veux accomplir les vœux que j'ai faits et je veux t'offrir ma reconnaissance. car tu m'as sauvé la vie. Tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, et dans la lumière de la vie. » Quelques mots sur le contexte d'abord. David est poursuivi par Saül, et bien qu'il ait toujours été loyal, qu'il n'ait jamais trahi la confiance de Saül, Saül est jaloux et il en veut à la vie de David. David a donc pris la fuite et il s'est réfugié chez ses ennemis d'hier, les Philistins. Et les Philistins l'ont bien reconnu, c'est ce grand guerrier qui leur a infligé de cuisantes défaites. Donc vous imaginez la situation de David qui se retrouve chez ses pires ennemis. Et il va feindre la folie pour essayer de dire, bon, peut-être qu'il y a un fou, ils ne couperont pas la tête, je ne sais pas. Mais enfin, toujours est-il qu'à vue humaine, il est vraiment dans une situation désespérée. Les versets 2 et 3 traduisent la détresse de David. « On me harcèle à longueur de jour, mes adversaires sont nombreux. » Donc, une impasse pour lui. Et au verset 4, ce grand guerrier, celui qui a terrassé Goliath, qui a fait preuve d'une hardiesse vraiment énorme, eh bien reconnaît humblement qu'il a peur. Mais il ne se laisse pas gouverner dans ses actions par sa peur. Au contraire, il renouvelle sa confiance en Dieu. Autant la peur, l'angoisse, le désir de vengeance et tout ça sont des sentiments, là David fait appel à sa volonté. C'est une prise de position spirituelle. La peur nous paralyse, elle est subie, mais David lui réagit en réaffirmant une fois de plus sa confiance en Dieu. J'allais dire, malgré tout, malgré les apparences, malgré les circonstances, il dit, c'est en Dieu que je place ma confiance. Et pourtant, la brève évocation du contexte que j'ai faite suffit pour que vous compreniez qu'il puisse se demander, mais que fait Dieu? Pourquoi suis-je réduit à cette extrémité alors que je n'ai rien fait qui mérite cela? David ne va pas mettre Dieu en question, il ne va pas tomber dans les pourquoi, il lui renouvelle tout simplement sa confiance. Faire confiance à Dieu quand tout va bien, c'est facile. Louer Dieu quand tout va bien, c'est facile. Au fait, n'oublions pas de le faire, même quand les choses vont bien. Mais dans l'épreuve, c'est là qu'on voit la solidité de notre foi, en quoi nous croyons, non pas ce que nous voyons, mais ce en quoi nous croyons. « Je loue Dieu pour sa parole », nous dit David. La parole, en effet, est une source de réconfort à travers les promesses qu'elle recèle. Alors, je ne vais pas les commenter, mais je vous ai simplement extrait 4 versets des psaumes. Le premier bien connu dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Au psaume 34, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » C'est peut-être anecdotique, mais le mot « campe » me fait du bien. Quand on campe, c'est durable, on s'installe pour un temps. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Au psaume 50, « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Quand j'ai cherché ce verset dans une concordance, je suis d'abord tombé sur « Invoque-moi au jour de la détresse et je te les délivrerai. » Je pensais qu'il était honnête de lire aussi le verset qui précédait. « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, accomplis tes vœux et je te délivrerai. » Enfin, au psaume 91, « Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr. » On voyait tous les témoignages de ces gens hier à la télé, un lieu sûr. C'est vraiment ce dont ils avaient besoin. L'émotion, les circonstances n'ont pas fait oublier à David les promesses que Dieu nous a faites pour combattre la peur et le découragement. Et on voit bien dans le psaume 56 l'effet de cette parole. David dit tout de suite « Je n'ai pas peur ». Et il poursuit même en disant « Mais que pourrait me faire de simple mortel ?» Je ne sais pas comment vous recevez ces paroles, mais si ce n'était pas une parole de David, moi j'aurais envie de lui souffler, mais fanfaron, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent te faire? Ils peuvent tout te faire, ils peuvent t'ôter la vie, Bon, on ne va pas insister. Alors qu'est-ce qu'il veut dire David quand il dit ça? Que peuvent me faire des hommes mortels? Je crois que David veut dire par là, l'essentiel est sauf. On ne peut pas m'ôter l'essentiel. Alors on peut m'ôter la vie, bien sûr. Mais ce n'est pas forcément l'essentiel. J'ai peur en prononçant ces paroles-là parce qu'il faut les entendre. Est-ce que je suis prêt, moi, à ressentir ça? Pour essayer de comprendre le sens de la parole de David, que pourrait me faire de simple mortel, je me suis rappelé cette parole de Jésus devant Pilate au moment de son jugement, où Jésus se tait, ne répond pas aux accusations qui sont portées contre lui. Et ça agace un peu Pilate, qui lui dit « Mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Et vous vous souvenez de la réponse de Jésus ?« Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jésus va donner sa vie à ce moment-là. Mais même ce pouvoir-là, c'est quelque chose qui a été consenti, qui a été délégué, qui a été donné. Rien ne se fait contre la volonté de Dieu. Et je crois que c'est de cela que David est convaincu quand il dit « Que pourraient me faire des hommes ?» Ce n'est pas la même autorité, ce n'est pas le même pouvoir, les hommes et Dieu. Alors comme je vous le disais, il y a des paroles qu'on prononce en tremblant, en disant « Pourvu que Dieu ne me prenne pas au mot ». Combien de fois Jésus nous a dit que votre foi est faible, qu'elle est petite ? Personnellement, ça m'encourage de savoir que Dieu honore la foi. Et je vous invite à le prier pour demander qu'il augmente notre foi. Il y a des prières où on se demande si on fait la volonté de Dieu. Mais quand on prie Dieu, « Seigneur, augmente ma foi », je crois que là, on n'a pas trop de doutes. Les versets 6 et 7 nous montrent que pourtant, la délivrance ne va pas arriver tout de suite. David loue Dieu pour sa parole, il remet sa confiance en Dieu. L'épreuve ne cesse pas pour autant tout de suite. Et je me dis que la patience dans l'attente de l'intervention de Dieu, c'est encore un signe de la solidité de notre foi. Et dans le verset 8, David nous dit « Après ces méfaits, échapperait-il, Dieu, que ta colère abatte ces gens ?» Je ne sais pas comment vous recevez ces paroles. Évidemment, on est dans l'Ancien Testament. On va se dire « Un chrétien aujourd'hui ne doit plus dire ça. » Il y a ces versets qui nous disent « Aimez vos ennemis. » Mais qui ne se reconnaît pas dans David ? Est-ce que humainement, dans votre cœur, il n'y a pas de temps en temps cette rage devant cette violence, ces innocents qui sont massacrés? Est-ce que Jésus lui-même ne s'est pas mis en colère devant certaines choses? David a soif de justice. Il appelle un jugement, mais souvenons-nous du contexte, ce jugement, il ne va pas l'exercer lui-même. Même si Saül a attenté à sa vie, il nous est rapporté que David a eu la vie de Saül entre ses mains. Il l'a surpris dans une caverne endormie, il avait son arme à la main, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé un pan du manteau, il est reparti, et il a montré à Saül le pan du manteau en lui disant « Tu vois, ta vie était entre mes mains, mais c'est Dieu qui te jugera. » Si nous sommes habités de certains sentiments de révolte, de colère, sachons que le jugement appartient à Dieu Et comme c'était, je pense, suggéré dans le message du CNEF, nous avons un message de paix à délivrer, contrairement à certains qui ont déjà voulu stigmatiser, appeler à la vengeance, à la séparation, à la discrimination de certains. Nous, nous croyons que ce jugement est réservé à Dieu. Le verset 9 nous montre aussi que Dieu est attentif. On peut avoir le sentiment d'être abandonné quand on est... Enfin, je ne sais pas, imaginez ces gens dans cette salle, face à des kalachnikovs. Ils ont dû avoir le sentiment que tout s'effondrait autour d'eux. Un sentiment d'impuissance terrible. Eh bien, le verset 9 nous dit que Dieu est attentif. Il n'intervient pas à ce moment-là pour empêcher David de pleurer. Mais il recueille ses larmes, il les compte, il les inscrit dans son livre. Cette image du livre, moi, me fait penser qu'un jour, il y aura des comptes à rendre. C'est pas facile de se satisfaire de cette pensée, on voudrait voir les choses se faire tout de suite. Et nous savons que dans la parole, il est dit que Dieu ne tarde pas, il patiente. Enfin, dans la fin du psaume, et je n'y reviendrai pas, David répète ses résolutions. Louer Dieu, lui faire confiance, lui offrir sa reconnaissance. Alors comment David combat-il ses sentiments, la peur, le découragement, cette volonté de justice? Eh bien, en plaçant délibérément sa confiance en Dieu, dans sa parole, dans sa souveraineté, dans sa compassion, dans sa justice. Je vous invite dans un deuxième temps à faire quelques lectures dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et cette fois, c'est l'apôtre Paul qui nous servira d'exemple. 2 Corinthiens 1, à compter du verset 8. Il faut en effet que vous sachiez, frères, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qu'il nous délivrera encore, et vous y contribuez en priant pour nous. Ainsi, la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Jusqu'ici la lecture. Paul avait même perdu l'espoir de rester en vie. Et en cela, il a remis sa vie entre les mains de Dieu. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, dit-il, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. Par ces mots, Paul nous dit que ce qu'il pouvait perdre, la vie, eh bien Dieu pouvait la lui rendre en le ressuscitant. Si on croit en la parole de Dieu, c'est indiscutable. Et pourtant, comme je le disais déjà tout à l'heure, c'est difficile d'accepter cela. Comme ça nous est difficile de dire « que ta volonté soit faite et non pas la mienne » comme Jésus l'a dit, qu'il est difficile aujourd'hui de se dire « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Je me souviens de l'émoi provoqué par le 11 septembre, et dans l'Église, certains se disaient que pour avoir eu ce sort-là, certains avaient dû pécher grandement. Et pourtant, je suis convaincu que dans ces 3 000 personnes, il devait bien y avoir des enfants de Dieu qui ont été fauchés comme ça brutalement. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Notre foi est mise à rude épreuve quand on voit ces événements. Et je me suis rappelé aussi, parce qu'on se pose beaucoup de questions quand on lit cela, Je me suis rappelé ce discours, ce dialogue entre Job et Dieu. Vous vous rappelez tous les contradicteurs de Job qui viennent lui dire « Mais parle pas comme ça, etc. » Et Job dit, répète sans arrêt, « Mais enfin, je n'ai rien fait, j'ai pas péché. Pourquoi tout cela, quoi ?» Et la réponse de Dieu à Job, c'est « Veux-tu vraiment prétendre que je ne suis pas juste ? Veux-tu me condamner pour garantir ton innocence ?» Puis ce n'est pas deux phrases, c'est trois chapitres complets de questions que Dieu adresse à Job. J'en cite trois, quatre simplement pour situer. « Sais-tu quelle loi le ciel, par quelle loi le ciel est gouverné ? Les éclairs partent-ils à ton commandement ? Qui a implanté la sagesse au cœur de l'homme et le discernement dans son esprit ?» Et face à ce flot de questions, Job n'a qu'une réponse possible. « Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. » Chacun à sa place, le Créateur qui est maître de tout, et la créature qui ne comprend pas. On évoquait dimanche ici même le livre de l'Ecclésiaste. Au passage, je vous dirais que moi c'est un livre que j'aime beaucoup et qui me parle beaucoup, qui m'encourage alors qu'il décourage certains apparemment. À la fin de sa vie, l'Ecclésiaste dit « L'homme ne peut comprendre ce qu'il fait sous le soleil, il a beau se donner de la peine pour chercher, il ne trouvera pas, et même si le sage prétend savoir, il ne peut pas comprendre. » Alors je comprends que pour certains, c'est vraiment décourageant. Mais moi je me dis, est-ce que l'important c'est de comprendre ? Est-ce que l'important c'est de comprendre Dieu ? Ou est-ce que c'est de lui obéir ? Bien sûr, on aimerait comprendre. Pierre encore citait ce matin le psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence dans les nations ? Pourquoi tout ça ? Et le verset 4, avec une traduction qui dans ma Bible me gêne un peu, « Mais il rit celui qui siège sur son trône dans les cieux. » Dieu ne prend pas de plaisir à voir les malheurs sur terre. Mais il s'en rit au sens qu'il est au-dessus de tout ça. Dieu règne. Et cela devrait nous réconforter, même si nous ne comprenons pas. Mais revenons à Paul, au verset 10 et 11. C'est Dieu qui nous a délivrés, bien sûr, mais vous y avez contribué en priant pour nous. Et là, il est mention de la prière, de son importance au sein de l'Église. Un homme seul est vulnérable. Ensemble, nous formons un corps, vous connaissez l'image, un corps solidaire. Et j'espère que le temps de louange de ce matin, les prières de chacun, les lectures dans la parole, vous apporteront le réconfort dont nous avons besoin. Paul donne d'autres exemples, je ne vais pas tout lire, mais il nous dit qu'il a été réconforté par la venue de Tite et par les nouvelles que Tite rapportait de l'Église. Nous aussi, nous pouvons partager, échanger, prier ensemble. Nous ne sommes pas seuls, nous formons un corps. La prière, c'est une forme d'action. Alors que le but des actions de vendredi à samedi, c'est de semer l'effroi et la stupeur, de laisser les gens KO debout sans savoir comment réagir, la prière, c'est une réaction. D'autres versets pour traduire le désarroi de Paul, au chapitre 4, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Le terme « extrémité » nous montre, mais l'extrémité, c'est quand il n'y a plus rien derrière. Pour nous, c'est jamais la dernière extrémité. Il y a toujours l'éternité, il y a Dieu qui est derrière. Persécuté, mais pas abandonné. Vous avez remarqué, à chaque fois, il y a deux termes. J'ai mis ça dans deux colonnes. À gauche, c'est ce que nous connaissons comme tout le monde. Mais à droite, c'est la façon dont Paul a réagi et la façon qui est proposée aux chrétiens de réagir. Persécuté, oui. Abandonné, non. Être chrétien, ça ne nous protège pas de tout. Mais nous savons que Dieu veille et nous ne sommes jamais abandonnés. Abattus, mais pas perdus. Nous savons que rien ne pourra nous arracher de la main de Dieu. Enfin, au chapitre 10, Paul évoque quelques armes, quelques pistes. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement charnelles. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Combien de fois ce matin, et je partage ce sentiment, on se sent impuissant devant ce qui s'est passé. Comment nous, un individu, on va réussir à faire quelque chose? Eh bien, nous avons des armes spirituelles, nous est-il dit. Elles sont mentionnées dans Éphésiens 6, le bouclier de la foi. Pour éteindre, nous est-il dit, les traits du malin, le découragement, la colère, le désespoir, le casque du salut, cela personne ne peut nous l'ôter. L'épée de l'esprit, nous est-il dit, qui est la parole de Dieu, dans laquelle nous trouvons des promesses et des paroles de réconfort. Et puis la prière, ça a déjà été mentionné, individuelle ou en communauté. J'en arrive à ma conclusion. J'espère que, comme moi, vous êtes encouragés par l'exemple de ces personnages, David, Paul, que nous sachions nous inspirer de leurs attitudes, de ces modèles de foi, de persévérance, et puis tout simplement de la simplicité de ce verset. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Amen.